VOA Afrique, les infos. À Washington, Idrissa Dia.
Bonsoir, 17h à Abidjan, 19h à Bujumbura. Sans surprise, au Burundi, Pierre Nkurunziza est officiellement candidat à la présidentielle du 26 juin. Le président sortant a déposé sa candidature ce matin malgré les manifestations depuis 2 semaines dans le pays. Nicolas Pinault.
Oui, le président burundais s'est rendu ce matin à la Commission électorale nationale indépendante. À son arrivée, Pierre Nkurunziza a promis que les manifestations, devenues selon lui une insurrection, seraient maîtrisées d'ici peu. Le chef de l'État burundais a aussi assuré que les troubles ne concernaient que quelques quartiers de Bujumbura, mais que 99% du Burundi était en paix. « Je vous promets que les élections vont bien se dérouler », a-t-il ajouté. Les manifestants morts et les pressions internationales n'ont rien changé à Bujumbura, où la tension s'accroît avec le dépôt de cette candidature. Conformément aux accords d'Arusha, le président burundais a déjà effectué 2 mandats et ne peut en effectuer un troisième. « Faux », répondent ses partisans, qui affirment que la constitution burundaise ne tient pas compte du premier mandat au suffrage indirect qui a porté au pouvoir Pierre Nkurunziza en 2005. Ce vendredi, les manifestations se sont poursuivies dans la capitale burundaise.
Willy Nyanitwe, porte-parole du président Nkurunziza, a également dit à Nicolas Pinault qu'aucune pression ne fera reculer son patron et il a lancé des mises en garde aux manifestants. On l'écoute.
On ne cède pas au sein du parti au pouvoir parce que nous avons le droit de présenter un candidat du moment qu'il remplit les conditions requises par la loi et du moment que nous ne violons pas la constitution de la République du Burundi.
Le président Nkurunziza a parlé des manifestants en termes d'insurrection. Quand pensez-vous pouvoir maîtriser cette insurrection au Burundi?
C'est une insurrection et ça se passe sur une très très petite portion du territoire burundais, moins de 1%. Alors si les plus de 99% du territoire sont dans la quiétude et se préparent pour aller dans la campagne électorale et pour des élections de 2015, vous comprenez que ces gens n'ont pas d'autre choix que de revenir à la raison et de rejoindre la légalité. Sinon, la justice devrait les poursuivre pour insurrection, pour acte de vandalisme, pour assassinat et pour blessure contre de paisibles citoyens et contre les forces de l'ordre. Donc, c'est une insurrection purement et simplement qui devrait être arrêtée par tous les moyens.
Willy Nyanitwe, porte-parole du président Nkurunziza. La République démocratique du Congo a déclaré qu'elle n'était pas opposée à une offensive séparée des casques bleus contre les rebelles hutu-rwandais dans l'est du pays. Hervé Latsou, patron des opérations de maintien de la paix, a annoncé que la MONUSCO se préparait à agir séparément contre les FDLR. Plusieurs personnes ont été tuées fin avril, début mai, dans une nouvelle flambée de violence entre Bantous et Pygmées dans le sud-est de la République démocratique du Congo, où la tension retombe avec le renforcement des forces de sécurité et de la MONUSCO, a appris aujourd'hui l'AFP auprès de l'ONU. Plusieurs personnes sont décédées, mais le bilan est vraiment très, très controversé. Certains parlent d'une vingtaine, d'une trentaine. Cela va jusqu'à une 60aine de morts, a déclaré à l'AFP le bureau de l'ONU pour la coordination des affaires humanitaires dans la province du Katanga. 12 étudiants ont été blessés grièvement vendredi par un kamikaze qui a ouvert le feu avant de se faire sauter à l'explosif devant un lycée de la ville de Potiskum dans le nord-est du Nigeria, une région régulièrement visée par Boko Haram, selon un policier et des témoins. Plusieurs lycéens du College of Administrative and Business Studies de l'État de Yobe ont raconté que l'assaillant, qui portait une ceinture d'explosifs, s'était suicidé après avoir épuisé ses munitions sans faire d'autres victimes, selon l'AFP. L'attentat n'a pas été revendiqué, mais Potiskum a déjà été visé à plusieurs reprises par les islamistes de Boko Haram qui sévissent dans la région depuis des années. En Guinée, la réunion prévue ce matin entre le président Alpha Condé et le chef de file de l'opposition guinéenne, l'ex-premier ministre Sélou Dalein Diallo, n'a finalement pas eu lieu, l'opposition dénonçant les violences et les exactions exercées par les forces de l'ordre sur leurs militants. Claire Morin-Gibourg a joint Sidya Touré, président de l'Union des forces républicaines, membre de l'opposition, pour lui demander quelles étaient les perspectives politiques de la Guinée. Sidya Touré.
C'est bien dommage que pendant 5 ans, nous ayons passé notre temps à discuter de problèmes qui, partout ailleurs, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, où il y a eu une crise post-électorale, au Mali, où il y a la guerre, au Niger, où il y a eu des choses de ce genre, ont été réglées en 8 mois, en 10 mois. Nous avons passé 5 ans pour cela. Il y a donc un problème ici, au niveau de la gestion du processus électoral, qu'il doit falloir régler pour permettre à ce gouvernement de consacrer un peu plus de temps au développement économique et social de notre pays. Il ne faut pas oublier que la Guinée est un pays, 5 ans après l'arrivée d'Alpha Condé, où on n'a toujours pas d'eau, pas d'électricité, pas d'infrastructure de base, pas d'assainissement de la ville de Conakry. Donc il y a des tas de choses à faire que ces discussions qui n'en finissent pas et qui sont pourtant consignées dans des lois clairement compréhensible pour tous les Guinéens, à savoir qu'en 2011, on aurait dû terminer avec tout ça.
Est-ce que vous allez appeler à de nouvelles manifestations ?
L'opposition se réunira pour discuter de cette question dès demain.
Eh bien, c'était Sidya Touré, l'ancien Premier ministre et membre de l'opposition guinéenne.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Le secrétaire d'État américain John Kerry s'entretenait vendredi à Paris avec ses homologues des pays du Golfe avant un sommet aux États-Unis la semaine prochaine où le président Barack Obama tentera de rassurer ses monarchies arabes sur le bien fondé de sa politique vis-à-vis de Téhéran dans les négociations sur le nucléaire iranien. Arrivé jeudi soir de Riyad, où il a plaidé pour un cessez-le-feu au Yémen, John Kerry s'est enfermé vendredi à la résidence de l'ambassadrice américaine avec les ministres des Affaires étrangères des 6 pays du Conseil de coopération du Golfe, Arabie Saoudite, Bahreïn, Émirats Arabes Unis, Koweït, Oman et Qatar. La réunion de Paris devrait aborder aussi les dossiers du Yémen, de l'Iran, de la Syrie, notamment selon des diplomates américains. M. Kerry est également à Paris pour les cérémonies sur le 70e anniversaire de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. 7 morts dans un accident d'hélicoptère dans le nord du Pakistan, dont les ambassadeurs des Philippines et de la Norvège et les épouses des ambassadeurs de la Malaisie et de l'Indonésie. Nathalie Barge.
2 pilotes et un membre d'équipage ont également été tués. L'hélicoptère s'est écrasé ce vendredi dans la vallée de Naltar. Les ambassadeurs de la Pologne et des Pays-Bas sont parmi les 10 survivants, selon le porte-parole de l'armée pakistanaise Asim Bajwal. Les talibans pakistanais ont revendiqué la responsabilité de ce crash, disant qu'ils visaient le Premier ministre Nawaz Sharif. Cependant, le ministre de la Défense, Kawaz Asif, a affirmé à la télévision d'État qu'il s'agissait d'un accident dû à une faute technique et non pas d'un acte terroriste. Selon la primature, le Premier ministre était dans un avion à destination de Gilgit au moment de l'incident, mais il est retourné à Islamabad et a adressé ses condoléances aux proches des victimes. Les ambassadeurs de plus de 30 pays et leurs proches, entre autres dignitaires pakistanais, se sont rendus à Gilgit dans un avion affrété par le ministère des Affaires étrangères. De là, 4 hélicoptères les ont transportés à Naltar en voyage d'excursion de 3 jours.
Au moins 10 personnes ont été tuées et 15 blessées vendredi dans une attaque contre un lieu de culte chiite dans la province de Diyala, au nord-est de Bagdad, revendiqué par le groupe djihadiste État islamique. Le ministère de l'Intérieur et la police ont parlé d'un double attentat, alors que les djihadistes, dans un communiqué diffusé sur leur site djihadiste, ont fait état d'une attaque suicide à la voiture piégée, rapporte l'AFP. Le référendum sur le maintien ou la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne est devenu vendredi un enjeu majeur après la victoire électorale de David Cameron et les Européens qui refusent de payer le prix fort pour la garder se préparent à 2 années de difficiles négociations. Le Premier ministre conservateur avait promis d'organiser avant 2017 une consultation pour décider de l'avenir de la Grande-Bretagne en Europe s'il était réélu. Voilà, c'était Idrissa Sevilla. Prochain bulletin dans 20 minutes avec Chérubin Dorsil et Morgane Guiriac.
Soyez au cœur de l'info.